Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en direct, comme d'habitude d'ailleurs, il faut le dire. Bonjour Eric.
Mais comme d'habitude, bonjour Didier et bonjour chers auditeurs.
Aujourd'hui, chers auditeurs, nous sommes presque dans la Semaine Sainte, enfin nous sommes en route vers Pâques naturellement, dans ce carême, et nous allons donc avoir une émission, certes musicale, mais une émission qui va nous renseigner, qui va vous informer sur l'évangélisation par le spectacle. Et pour ce faire, j'ai la grande joie de recevoir une spectatrice de ce spectacle, dont on va parler naturellement. Il s'agit de la Passion de Ménilmontant. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça date, j'ai la petite fiche sous les yeux, cela donc fait, c'est la 760e représentation. C'est dire que cette Passion est jouée depuis 1932, 86 ans de théâtre, ou 94 maintenant, 94, la fiche est un peu ancienne. Voilà, c'est absolument extraordinaire. Nous allons donc vous décrire par Madame Chantal Pluskelec. Bonjour Madame, je suis ravi de vous recevoir
Bonjour.
Dans cette émission.
Bonjour Madame.
Et vous allez nous décrire absolument cette évangélisation par le spectacle. Et nous aurons des plages musicales, bien sûr. En deuxième partie, Mélisande, nous serons un peu dans le même esprit, puisque c'est un abbé, musicien.
Il n'était pas prêtre.
Non, hein, non. Il avait les ordres mineurs.
Voilà.
C'est Franz Liszt, naturellement. Franz Liszt, dont je rappelle quand même que la ville de Marseille, on en parle beaucoup en ce moment, a failli se débaptiser pour s'appeler Liszmania. Car Liszt a un jour a donné un concert et il était tellement adulé par les foules partout en Europe, partout où il passait, les femmes déposaient leurs manteaux par terre pour laisser passer, je suppose, le carrosse ou la voiture, enfin, etc. à l'époque. Et la ville de Marseille, il avait un tel succès que la ville de Marseille a failli être débaptisée en l'honneur de Franz Liszt. Il faut le savoir. Bien. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Avant, cher Eric, avant de développer tous ces propos, eh bien, nous allons vous donner, chers auditeurs, quelques bonnes idées de concert. Même pendant le carême, on peut aller au concert à condition que ce soit, de la bonne musique, le beau, naturellement, introduit dans la spiritualité, et puis que ce soit, pourquoi pas, des concerts qui soient proches de l'esprit du carême et de l'esprit de la montée vers Pâques.
Alors ça va être surtout les concerts de Pâques qui vont se dérouler maintenant dans un peu plus de 15 jours, puisque nous avons quand même le dimanche de la Passion et le dimanche des Rameaux et la Semaine Sainte, où là, oui, des concerts, il y en avait d'ailleurs tout le temps, puisque les Passions étaient jouées pendant la Semaine Sainte, bien
mais
sûr.
Depuis les temps immémoriaux, puisque on jouait les mystères devant les cathédrales, à l'extérieur, pour que le peuple puisse assister à tout cela.
Alors, je vais vous annoncer les concerts de Pâques. Deux concerts principalement. Tout d'abord en l'église, en la paroisse Saint-Eugène, Sainte-Cécile, paroisse de Radio Courtoisie, qui est située 4 rue du Conservatoire, Paris 9e. Je vous donne le téléphone de la paroisse si vous vouliez avoir quelques renseignements complémentaires, y compris sur les offices et la Semaine Sainte. Son téléphone est le 01 48 24 70 25. Je répète, 01 48 24 70 25. Donc, le concert de Pâques aura lieu le dimanche 5 avril, jour de Pâques, à 15h par Vincent Rigaud, donc un récital d'orgue proposé par Vincent Rigaud, qui est l'organiste titulaire de la paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile. Donc, je répète, dimanche 5 avril à 15h. Deuxième concert qui sera presque simultané, mais qu'est-ce que vous voulez, ces concerts ont lieu dans l'après-midi. On peut donc choisir. Et bien cette fois-ci, c'est en la deuxième paroisse de la radio, qui est l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, puisque la messe y est diffusée tous les dimanches à 10h30, la grand-messe. qui est situé 23 rue des Bernardins, dans le 5e arrondissement. Je vous laisse également, chers auditeurs, le téléphone de la paroisse si vous aviez besoin d'informations diverses pour la Semaine Sainte et ce concert. C'est le 01 44 27 07 90, 01 44 27 07 90. Donc, en ce dimanche de Pâques, dimanche 5 avril, vous avez un récital d'orgue qui vous sera offert par Madame Marie-Agnès Gralmenet, qui est organiste titulaire du Grand Orgue de Saint-Nicolas. Les orgues de Saint-Nicolas sont absolument magnifiques. Elles ont bénéficié l'année dernière de travaux encore, avec un combinateur séquentiel, et puis des travaux sur la sonorité. Vraiment, ce sont des grandes orgues superbes, qui sont entretenues par les paroissiens qui ont contribué beaucoup de Saint-Nicolas, et le clergé de Saint-Pie-X, bien sûr. Donc, merci à eux, vraiment. Donc, ce récital d'orgue a lieu dimanche 5 avril à 16h. Donc, vous voyez, ça va être très juste, parce que 15h dans le 9e, 16h dans le 5e, il va peut-être falloir courir très 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 vite. Oui. Méfiez-vous, la circulation est réduite à 30 à l'heure à Paris. Hein, donc, pas question, à moins d'avoir des motards. Alors, blague à part, Madame Marie-Agnès Gralmenet va jouer des œuvres de Thierry Palesco, Yannick Merlin, qui sont des organistes et compositeurs contemporains, peu connus, Gabriel Pierney, alors là, bien sûr, qui n'est plus contemporain, qui est bien connu, Jacques-Nicolas Lemens et Jean Langlais. Madame Marie-Agnès Gralmenet a toujours l'art de proposer dans ses récitals des œuvres qui sortent tout à fait de l'ordinaire. Et on peut vraiment l'en remercier parce qu'elle fait découvrir beaucoup de choses sur ce très très bel instrument de Saint-Nicolas du Chardonnay. Alors, après les concerts de Pâques, je voudrais vous parler, chers auditeurs, des dimanches musicaux de la Madeleine. Nous allons avoir très prochainement deux concerts très intéressants. D'abord, dimanche prochain, dimanche 22 mars, dimanche de la Passion, un récital d'orgue proposé par Monsieur Adrien Levasseur. Ce récital d'orgue aura lieu à 16h. Ce concert est très intéressant. Adrien Levasseur est organiste titulaire adjoint de l'orgue Cavaillé-Colle de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris. Et il va nous offrir des œuvres de Jean-Sébastien Bach, une transcription de Camille Saint-Saëns de la danse macabre qu'il a transcrite lui-même pour l'orgue, une transcription également de Claude Debussy, la danse tarentelle styrienne, et puis des extraits de la 6e symphonie de Charles-Marie Vidor. Donc ce récital a lieu dimanche prochain, 22 mars 2026, à 16h en l'église de la Madeleine. Je vous rappelle que ces concerts sous la présidence de Monseigneur Patrick Chauvet, qui est lui-même très musicien également. Ce sont des concerts qui vous sont offerts, gratuits. On fait passer une corbeille et si vous pouvez donner, comme vous le souhaitez, il n'y a vraiment pas d'obli.
Participation
ça marque,
aux frais.
Participation aux frais. Un autre concert également, le dimanche suivant, qui sera le dimanche des Rameaux, concert qui sera offert par l'ensemble vocal Gabriel Fauré, avec Michel Geoffroy à l'orgue, et sous la direction de Célestin Vanneville. Nous avons reçu Michel Geoffroy et Célestin Vanneville ici même l'année dernière,
absolument,
je crois, au mois de janvier. Ce concert est extrêmement intéressant. Il va proposer des œuvres de Félix Mendelssohn, d'Anton Bruckner, de Pablo Casals. Je ne savais pas qu'il y a une œuvre qui s'intitule « A vos omnes ».
Absolument.
Et de Gregorio Allegri. Donc ce concert sera présenté par Olivier Perrin. Donc ce concert par l'ensemble vocal Gabriel Fauré, qui a été fondé d'ailleurs en l'église de la Madeleine, aura lieu donc dimanche 29 mars à 16h en l'église de la Madeleine. Alors c'est deux dimanches, à la suite de ces récitals, il y aura le salut du Saint-Sacrement en l'église de la Madeleine. Pendant ce temps de dimanche de carême, je tiens à vous le signaler, chers auditeurs, si vous voulez vous joindre dans cette église. Et c'est fait, vous savez, cette église de la Madeleine a été tout à fait restaurée dans son éclairage et c'est extrêmement poignant pour ces cérémonies, il faut bien le dire. Je voudrais vous citer aussi rapidement les concerts de l'association Musique et Patrimoine, dont je vous rappelle le téléphone 01 42 50 96 18. Je répète 01 42 50 96 18. Tout d'abord, les concerts de musique de chambre et les récitals de piano aux chandelles en l'église Saint-Éphrem, qui est située 17 rue des Carmes dans le 5e arrondissement, tout à côté de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. D'ailleurs, c'est le même métro. Et puis, également, cette association présente les concerts de l'orchestre des violons de France et de la soprano Cécile Bénard, très régulièrement en l'église de la Madeleine. Alors, le mieux, ces concerts ont lieu notamment à Saint-Éphrem pratiquement tous les jours.
Oui.
Vérifiez l'horaire, téléphonez au numéro que je vous ai donné ou allez sur le site tout simplement ampconcert au pluriel toulier.com. Voilà, chers auditeurs, quelques beaux moments musicaux à passer. N'hésitez pas. Ça fait beaucoup de bien dans cette période que nous vivons.
Absolument. Alors, quelques suppléments. Moi, je rajoute à ça deux concerts, le jeudi 19 mars et le vendredi 20 mars, en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, 2 places du Louvre à Paris, à 20h30. Le chœur Efata vous propose le Fou d'Assise. C'est Saint-François d'Assise en cantastoria, en histoire... chanter en quelque sorte, voilà. C'est donc le 19 mars, c'est déjà commencé, la série c'était le 12, 13, 14, mais c'est passé. Donc maintenant c'est le jeudi 19 mars et le vendredi 20 mars à 20h30 en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, 2 places du Louvre. Des concerts un peu plus lointains, mais que je vous prie de bien vouloir noter sur vos tablettes. D'abord le 20 mars... Vous pourrez entendre un récital de piano à quatre mains et piano sol en hommage à Ignace Paderewski et ses contemporains d'ailleurs. C'est des choses tout à fait intéressantes et tout à fait originales. Et ce concert aura lieu à l'Institut, la Bibliothèque polonaise de Paris, qui se trouve 6 quai d'Orléans dans le 4e arrondissement de Paris. C'est un concert qui sera donné par nos amis les sœurs Andragnan, que les auditeurs
fidèle
connaissent bien.
Du Moulin d'Andé.
Voilà, Gisèle et Chantal Andragnan, qui viennent très souvent dans cette émission. Donc, c'est à 19h, le 20 mars, en la Bibliothèque polonaise de Paris, je vous l'ai dit, 6 quai d'Orléans, dans le 4e arrondissement de Paris.
Vous
trouverez toutes les coordonnées sur les sites de la bibliothèque, c'est assez facile.
Paderewski était un musicien, mais également homme politique.
Bien sûr, voilà. Il a été Premier ministre, je crois, quelque chose comme ça. C'est un homme politique,
Il a été ministre, mais en
Pologne, il y a eu beaucoup de... Landsbergis a été chef d'État, enfin, etc., qui est un compositeur, etc. En Pologne, il y a beaucoup de musiciens.
Il y avait quand même des hommes politiques inspirés
voilà,
en Pologne.
Voilà, le dernier, c'est Louis XIV. Bon, après, il n'y en a plus, je crois pas. Enfin, je n'ai pas ma connaissance. Très lointain, celui-ci, mais notez-le déjà, le 8 avril, à la salle Cortot, 78 rue Gardinet. Je vous l'annonce aujourd'hui parce que nous n'aurons pas d'émission avant cette date. Donc, le 8 avril, le quintet La Truite de Schubert, interprété par Sylvie Carbonel, la pianiste Sylvie Carbonel, que nous connaissons bien ici, bien sûr, la violoniste Isabelle Flory, Archil Karadze à l'alto, Chartsian au violoncelle et To Yen Yu à la contrebasse. La réservation est prudente au 01 48 24 40 63 01 48 24 40 63 et sur le site de la salle Cortot, bien sûr, sallecortot.com. C'est pour un concert le 8 avril le mercredi soir à la salle Cortot, 78 rue Cardinet, avec notre amie Sylvie Carbonel. Voilà pour les annonces. Et puis, bien sûr, l'annonce des représentations qui nous concernent aujourd'hui, puisque le 21, le 22, le 28 et le 29 mars à 15h et le 20 et 27 mars à 20h30, en l'église Saint-François d'Assise, salle Saint-Landry, 16 rue du Général Brunet dans le 19e arrondissement.
C'est Métro Botzaris, c'est-à-dire en haut des buts de Chaumont.
En haut des buts de Chaumont, d'accord. Voilà. Et c'est cette fameuse Passion de Ménilmontant avec la voix de Catherine Yégel sur une musique de René Aubry, mise en scène Hugues Batzigaloupo, si je n'écorche pas son nom, et Jean-Baptiste Martin. Et donc, ici même, dans le studio, Chantal Plusquelec, qui connaît très bien ce spectacle, qui va nous en dire l'extraordinaire historique, finalement, parce que cette passion de Ménilmontant, avec des décors somptueux, un travail de lumière tout à fait magnifique, j'ai vu des photos, enfin, etc., avec un texte, bien sûr, qui est une véritable évangélisation, qui est faite à la fois par des acteurs chrétiens, catholiques, etc., mais aussi par des acteurs qui ne le sont pas forcément, mais qui, attirés par le théâtre, par le beau attire, voilà, entraîne vers le spirituel. Et donc, ces acteurs, même s'ils ne sont pas chrétiens, jouent dans cette passion de Ménilmontant. Alors, l'histoire.
L'histoire, c'est qu'avant, le théâtre de Ménilmontant était un théâtre religieux. Mais l'évêché n'a pas pu racheter le théâtre. Et c'est la paroisse Saint-François d'Assise qui a un espace théâtral dans sa crypte, qui le développe et l'améliore régulièrement pour qu'il y ait cette passion, qui est jouée depuis 14 ans, depuis 94 ans.
94 ans.
Et qui n'a été interrompue que deux fois. Une année pendant la guerre de 39-45, une année pendant le Covid. Oui. Hitler a même permis que le Christ soit présent et qu'il est torturé dans ses camps nazis.
C'est
ahurissant. Assez ahurissant.
Oui, oui, absolument. Ce qui prouve bien que le Covid a été beaucoup plus sévère que... pardon, bon, je déraille, pardonnez-moi. Mais pendant toute la guerre, ce qui d'ailleurs pose parfois des problèmes d'ordre moraux et éthique. Mais pendant toute la guerre, les spectacles ont été d'une très grande richesse à Paris. Il fallait que les gens se divertissent un peu compte tenu du contexte. Et alors que pendant le Covid, effectivement, là c'était très sérieux, il ne fallait pas sortir. Voilà, bref, on en parle. Bon. Alors, ce qui est très intéressant, évidemment, dans cette passion, c'est la fidélité, finalement. Un spectacle donné pendant 94 ans. Alors, est-ce que le texte a évolué? Est-ce que la mise en scène a évolué au cours de ces années?
Oui. Et tous les ans, il y a des petits ajouts, des petits retraits. Les gens rayent des morceaux de phrases, de textes, et en rajoutent d'autres. Il évolue.
Très bien.
Mais la trame, ce qu'il y a de très très intéressant, c'est l'humanité des hommes de cette époque. Et en permanence, moi quand je l'ai vu, je me dis, et moi, à chaque fois.
Oui, oui, oui.
Et moi, qu'aurais-je fait? Et moi, quand je suis une des femmes du marché qui pose des questions, et celui-là, le nouveau prophète, celui qu'on attendait, et moi, qu'aurais-je dit? Oui ou non. Est-ce que je le prends pour un fou illuminé ou quoi? Et Véronique, c'est pareil. Qui est Véronique? Tout le monde oublie que Véronique aurait été la première martyre. Mm-hmm. Parce que les apôtres avaient pris la fuite, eux. Mm-hmm. D'où Emmaüs, après. Mais elle est sortie du rang. Elle s'est précipitée au-devant en appliquant son voilà.
voile.
Or, retirer le voile voulait dire être considérée comme une prostituée ou une adultère. Le voile était la dame normale. Mm-hmm. Et elle acceptait de risquer d'être lapidée ou tué, comme suivant le Christ. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé la veille autour du brasero, lorsque Saint-Pierre, il a renié trois fois.
Oui.
Alors celui qui joue Saint-Pierre, écoutez, je suis âgé, j'ai plus de 80 ans. Eh bien, j'ai pleuré en le voyant. Il est extraordinaire. On a l'impression que c'est nous, à chaque fois, qui renions. D'une façon moins grande, par des tas de petites choses. Mais c'est Saint-Pierre, il renie, il est extraordinaire.
Alors, dans cette passion, jouée, pas par les mêmes acteurs, évidemment, depuis 94 ans quand même, y a-t-il des acteurs professionnels? Y a-t-il des acteurs amateurs? Y a-t-il des figurants? Comment pour que ce soit une évangélisation, comme le titre que j'ai voulu pour cette émission, l'évangélisation par le spectacle, on évangélise la foule des spectateurs, naturellement, mais la plupart des acteurs dans ce cas-là, moi je l'ai connu y compris dans des pièces musicales, simplement dans des passions. Les passions de Saint-Jean, on va entendre tout à l'heure un extrait d'une passion de Bach. J'ai connu des musiciens qui se sont convertis par la musique, en quelque sorte, par la beauté, par cet aspect évidemment tragique de la passion et qui ont été bouleversés.
Ce qui est bouleversant, c'est le réalisme. Nous sommes où? Qu'est-ce qui s'est passé? Or, il y a trois procès de Jésus qu'on oublie toujours. Or, Olivier Kraft, qui a été avocat et juge, a écrit il y a une vingtaine d'années, je crois, un livre qui s'appelait « Les trois procès de Jésus » par le Sanhédrin, par les Juifs eux-mêmes, par Pilate. Et donc, on a toutes les composantes de la société.
Oui, absolument.
Et quand on lit Saint-Luc, sur la paroisse à laquelle j'appartenais, on nous faisait lire pendant l'Avent Saint-Luc en entier. À la fin de chaque messe, une partie. On voit qu'on renie sept fois le peuple, la foule et tout. Sept fois, à sept reprises. On n'y prend pas garde quand on le lit. Mais en fin de compte, et ça nous rappelle 70 fois, 67 fois par jour. C'est infaisable. Au niveau humain.
Ouais.
Et là, justement, il y a un acteur. Celui qui fait Jésus est extraordinaire. C'est le seul acteur professionnel.
D'accord.
Il est grec, il a un visage christique, il est orthodoxe, donc chrétien, il le vit en tant qu'acteur, homme de notre temps, avec tous ses qualités et ses défauts, et en tant que Jésus.
Mmh.
Et c'est vraiment passionnant, il joue très 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 bien. Tous les autres sont des bénévoles.
D'accord.
Certains qui sont bénévoles depuis longtemps, donc ils sont des semi-acteurs, en sens qu'ils sont amateurs, dans le sens qu'ils mettent leur âme dedans.
Voilà,
dans
exactement, le sens
étymologique,
noble, le sens noble de l'amateur.
Mais moi, j'ai été enthousiasmée aussi dans le sens étymologique.
Mm-hmm, tout à fait,
par
en
cette
Dieu.
Pièce, voilà, on rentre en Dieu par cela, c'est-à-dire notre âme est transformée, on est percuté littéralement. Et alors, il y a des figurants. Par exemple, les scènes de marché, les scènes de foule, il y en a. Et le marché, c'est important. C'est le tout venant.
Mmh,
il y a
sûr.
Des juifs, comme c'était la Pâque. Il y a des juifs, il y a des gens qui viennent de toutes les provinces extérieures pour faire leur marché. C'est les grandes rencontres, les familles se retrouvent de tous les coins de l'Empire.
Mmh.
L'Empire.
Romain.
Chrétien.
Oui,
romain et des juifs, en fin de compte. C'est très intéressant. Et on sent les gens qui réagissent. Le refus, l'adhésion, l'hésitation. Et le questionnement, car on vous pose le questionnement. Les gens se renvoient la balle au ping-pong.
Oui, 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 oui.
Et tu crois et tu penses, non, c'est pas vrai. Et lui, il se dit, pour qui? C'est passionnant.
Oui, oui. En fait, ça n'est pas... C'est évidemment, la base du texte, c'est l'évangile, évidemment. C'est le récit de la passion. Mais en plus, c'est mise en verbe, en situation. C'est d'ailleurs la technique de la méditation jésuitique, des jésuites, où on nous demande systématiquement de se représenter la scène, d'imaginer la scène telle qu'elle a eu lieu. Voilà, les regards du Christ, c'est vrai pour tout l'évangile d'ailleurs, mais plus particulièrement encore pour cette passion, où là, on a des descriptions qui sont plus précises et qui permettent justement aux comédiens de rendre compte totalement, d'incarner en quelque sorte.
C'est très incarné.
Très incarné.
C'est très très incarné, parce que Jésus vraiment est homme, avec les doutes qu'il a eu lui aussi.
Et bien
parce
sûr.
Au Jardin des Oliviers, et c'est quand même un doute qui est exprimé.
Et les
même
larmes de sang.
Même s'il est Dieu, fils de Dieu.
Mais bien sûr, mais bien sûr.
Et en fin de compte, ça fait penser aussi à Mgr Chauvet. Souvenez-vous ce qu'il avait dit à une émission du dimanche soir avec vous, à l'époque, à Radio Courtoisie, justement, il avait dit « Je voudrais recréer sur le parvis de Notre-Dame les mystères, car en partant de l'extérieur, je voudrais qu'on entre dans l'intérieur. Vous vous souvenez de cette émission?
Oui, oui, mais bien
c'était
sûr.
C'était vous qui l'aviez invité.
Mais écoutez, voilà, il n'y a que des bonnes émissions sur Radio Courtois. Si, pardon de.
Voilà. Et non, mais c'est vous invités.
Mais ce qui est, c'est tout à fait exact. L'évangélisation, à l'époque où il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas, enfin, tous les moyens dits modernes de diffusion. À l'époque, l'évangélisation passait naturellement par les clercs, bon, le catéchisme, par les vitraux, par le beau, par les vitraux dans les églises. Les vitraux, c'est une catéchèse absolument fabuleuse. Et en plus, il faut faire l'effort, parce que quand on est à Chartres, on est quand même, je ne sais pas, 12 mètres en dessous. Il faut, parce qu'à à moins d'avoir une paire de jumelles, il faut vraiment chercher à voir la scène, qui sont généralement d'une beauté extraordinaire, quoi, à travers la lumière. Et dans le spectacle, c'est tout à fait ça. On peut, par l'émotion, en quelque sorte, bien contrôlé, bien amené, on peut par l'émotion évangéliser complètement. Alors, Chantal Pucollet, vous me disiez tout à l'heure que vous avez été dame catéchiste, comme on dit, pendant des années, n'est-ce pas, plus de 30 ans. Alors, quel est l'apport, en quelque sorte, de ce genre de spectacle que finalement on devrait montrer systématiquement à tous les enfants, tous les jeunes, pour précisément les faire vibrer à l'incarnation de la scène?
Il est évident que faire le catéchisme, c'est très abstrait pour les enfants. C'est presque des... On les prive de leurs copains, de leur partie
plus.
De foot ou de je ne sais quoi, et en fin de compte, on n'entre pas dedans.
Oui.
Alors que là, c'est pour les catéchistes, c'est formidable. Pour les scouts, moi qui ai été guide, où on jouait des spectacles.
Ah mais bien sûr.
Et moi, je souhaite à ce que des guides et des scouts dans leur troupe le rejouent
oui.
à leur façon. Et qu'au catéchisme, moi je les ai mimés à des enfants du catéchisme. Mais qu'est-ce que c'est que le rosaire? C'est nous représenter.
Oui.
On nous demande de nous imaginer.
Tout à fait.
Et le chemin de croix, c'est quoi?
C'est exactement.
On doit s'imaginer ce qui s'est passé au moment. On rentre dedans. Eh bien, il faut faire rentrer les jeunes dedans.
Oui.
Et ça, ils savent très bien le faire maintenant. Ils sont tellement habitués à ce qui est passif, tout à coup, ils sont en cohésion. Et de passif, ils deviennent acteurs.
Voilà. Alors que devant un écran, ils sont évidemment...
Passifs et ça passe.
Voilà.
Alors que là, ils intègrent, ils incarnent eux-mêmes.
Oui, oui.
Ils peuvent se prendre pour qui ils veulent. Saint-Pierre, Judas, notre Judas est extraordinaire. Et le dialogue est presque, pas le litige, mais pas un conflit, mais une disputation,
oui,
vraiment,
oui, oui.
entre Saint-Pierre et Judas est extraordinaire.
Ah, oui.
Et Jean qui intervient, écoutez, ils ont un jeu, ceux-là, formidable. Et j'ai pu assister à des répétitions. Ce qui m'a permis de voir l'exigence du metteur en scène. Ils sont deux metteurs en scène.
Mmh.
Et leur exigence, à un moment dans le débriefing, on devrait dire la remise à plat, dans la remise à plat de ce qui avait été répété, on a dit « Ah, Pierre et Judas, vous avez été extraordinaires. Là, vous gardez cette attitude. Vos regards avec Jésus qui était au fond, un triangle parfait. » À la seconde prédit, ah non là, vous supprimez là. On dit la lumière, vous entrez non pas à la, mais lumière.
Oui.
Vous sortez à tel mot. Ici, tel geste. On ne se rend pas compte, vu de l'extérieur, non. que tout est secondé.
C'est ça.
Pas à la minute, pas à la minute. Que tout est important. Et les metteurs en scène, ils regardent, ils prennent des notes tout le temps. Corrigez, faites ci, faites ça. Non, déplace ça de 10 cm. Déplace ce praticable de 10 cm. Non, tu t'assois là, tu le tournes un peu comme ça. Toi, regarde de telle façon. En permanence. On ne se rend pas compte quand on voit ça. Du travail qui est par derrière.
Mais bien sûr, mais c'est pareil pour le cinéma. Le cinéma qui est un artifice complet, finalement, c'est d'ailleurs, entre guillemets, la manipulation du cinéma. Puisqu'il ne faut pas croire que ce soit spontané. Une scène est totalement reconstituée. Et comme vous le dites, le regard est porté de cette façon-là et pas d'une autre. L'attitude, vous vous tournez de 10 degrés comme ça, enfin, etc. Tout est absolument calculé. Sans ça, l'émotion ne passerait pas, en quelque sorte, pour le public. Le public qui ne va pas analyser les choses spontanément. Alors, je redonne les noms des deux metteurs en scène dont vous parlez, Hugues Batzigaloupo et Jean-Baptiste Martin. Voilà. Mais effectivement, la mise en scène est quelque chose de fondamental, de très important, comme vous dites, dans le moindre détail. La lumière aussi est très importante, puisque c'est ce que l'œil va spontanément capter, et par conséquent, on a besoin de cette...
Et cette année, ils ont fait d'énormes frais pour faire justement les rampes lumineuses et les ajuster pour cibler tel endroit ou tel autre, telle personne ou tel autre. C'est vraiment remarquable. Alors, il y a donc pour les enfants du catéchisme, je reviens un peu en arrière,
oui, oui, oui.
C'est remarquable, les scouts et les guides, tous les jeunes, les patronages catholiques, il y en a plein.
Et vous faites bien de signaler les scouts et les guides, tout simplement parce que n'oublions pas que le grand élan du scoutisme entre les deux guerres et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est César Geoffrey, avec les chorales à cœur joie, avec précisément... à l'instant, je viens de manger le nom de d'un des fondateurs d'Una Voce, qui avait une émission ici très régulière.
Oui, il l'a toujours, d'ailleurs.
Et dont le frère a fait tous les spectacles pour les scouts, avec des mises en scène absolument professionnelles. Ça va sans doute me revenir, chers auditeurs.
Oui, aussi,
les auditeurs nous le diront, d'ailleurs, parce qu'eux, ils connaissent. Mais tout l'élan du scoutisme a été donné, en quelque sorte, de cette façon, par la restitution des mystères, et puis de scénettes un peu plus profanes, sans doute, mais qui étaient... moi, je me souviens, quand j'étais scout, nous faisions des tournées. Je me souviens d'une tournée en Vendée, où on avait donné 20 spectacles. Alors, c'était avec les pièces de la biche. Bon, chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens, mais on allait dans le moindre petit village. On montait les tréteaux, enfin, etc. Et les habitants étaient absolument enthousiasmés. Et je dois dire d'ailleurs que à chaque fois que nous étions accueillis et bien accueillis par les services municipaux, etc., la plupart du temps, les maires de ces toutes petites, de ces hameaux, étaient d'anciens scouts. Ce qui prouve bien que le scoutisme est une école de la responsabilité, école de la sociabilité et de la prise de fonction, de fonction. Ça, c'est en main. Je vous propose une petite plage musicale, si vous voulez bien. Mettons-nous, alors peut-être pas dans l'ambiance de cette passion, parce que là il y a un musicien quand même, musique de René Aubry.
Oui, oui, absolument.
Alors je n'ai pas la bande son malheureusement, mais il y en avait un autre un peu avant qui faisait des choses pas mal, il s'appelle Jean-Sébastien Bach, et je vous propose d'entendre oui. Un extrait du prologue de La Passion selon saint Jean. Thank you.
chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la musique et de la culture, dirigé par Didier Rochard, qui reçoit aujourd'hui Madame Chantal Pluskelec et pour évoquer ce thème de l'émission, l'œuvre d'évangélisation par le spectacle et la passion de Ménilmontant.
Alors, passion de Ménilmontant, on l'a dit... À destination de tout public, naturellement, mais en particulier des jeunes, en particulier des catéchistes, des scouts, etc., et des catéchumènes. Il y a aujourd'hui un phénomène qui est tout à fait particulier et merveilleux dans l'Église, c'est-à-dire, dimanche j'étais à Saint-Roch, il y a 53 catéchumènes cette année qui vont être baptisés pendant la nuit de Pâques. Bon, il y a un véritable mouvement, je crois que c'est 17 000 en France, en tout, quelque chose comme ça. Je ne garantis pas le chiffre, mais peu importe, c'est un ordre d'idées. En tout cas, il y a véritable, et surtout des adultes, naturellement, et par conséquent, on sent qu'il y a une appétit, en quelque sorte, de spiritualité et de compréhension du mystère. Pardon,
et,
compréhension du ministère.
Et de catéchumènes qui quittent des religions pour venir vers...
Absolument, vers la vérité. Vers la vérité, disons les choses telles qu'elles sont.
En fait, vous vous souvenez, Malraux, qui disait que le 21e siècle serait spirituel ou pas.
Ou pas.
Au début du siècle, on s'est dit catastrophe, genre de spiritualité incroyable.
Oui, oui.
Et je me demande si c'est pas en train de pousser de surgir.
On y vient, voilà.
Il y a déjà 25 ans que nous sommes dans ce 21e siècle.
Et Simone de Beauvoir, qui avait repris quasiment le pari de Pascal, en disant « Si Dieu n'existe pas, vous êtes les plus fous de lui consacrer la moindre seconde. Mais si Dieu existe, vous êtes encore plus fous de ne pas lui consacrer toute votre vie. »
De ne pas le risquer déjà.
Voilà,
très belle
exactement.
Phrase.
On devrait dire au risque
c'est
de Dieu.
C'est Simone de Beauvoir.
Oui, Simone de Beauvoir,
voilà.
Oui.
Mais c'est au risque de Dieu, notre vie.
Ben, évidemment.
On accepte ou pas?
Alors donc, les catéchumènes, je crois que c'est le spectacle des catéchumènes.
Oui, parce qu'ils sont baptisés à Pâques.
Voilà,
et
exactement.
C'est avant Pâques, la grande préparation, c'est normalement une grande retraite.
Oui.
Or, les gens travaillent, donc la retraite n'est pas très facile. Mais il y a une autre façon de faire retraite, c'est de s'immerger dans le texte.
Oui.
Et s'immerger le texte, c'est un peu difficile quelquefois. On n'est plus tellement habitué à lire, c'est difficile. Alors qu'un spectacle qui vous prend, car c'est l'inverse. Dans un livre, on va de soi vers le livre, mais là, le spectacle, il vient vers vous.
Oui.
Il entre dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Il rentre par la parole, par les yeux, par le ressenti.
Complètement.
Et ce ressenti est énorme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pleuré, moi, au reniement de Pierre. Alors
parce
que j'ai plus de 80 ans, et je l'entends depuis que je suis toute petite. Ça devrait me laisser... passive, dirons-nous.
Pas forcément indifférente, mais en tout cas passive.
Pas très indifférente, mais passive. Et là, on devient actif.
Mais je note sur le petit tract qui annonce, donc, qui est très joliment fait d'ailleurs, qui annonce ce spectacle, je note que le journal Le Monde, j'ouvre les guillemets, en a dit « Aucune intrigue n'encombre inutilement l'évocation de la Semaine Sainte et le plein feu final sait garder une rare discrétion. C'est peu dire que l'on sort du spectacle pieusement servi, ému. » Voilà. Donc c'est un spectacle qui touche à la fois le cœur, l'esprit, l'intelligence et l'âme naturellement. Pour ceux qui en ont, tout le monde a une, mais pour ceux qui en sont conscients en tout cas.
Et puis tous les gens qui ont été les tièdes, les gens après ma génération, les gens d'après 68, qui en fin de compte ont tout laissé de côté parce que tout était permis, rien n'était obligé, et on dit aux enfants, choisir entre quoi et quoi? Sinon, pas de comparaison.
Mais bien sûr.
Ils ne peuvent pas choisir.
Mais c'est évident.
On ne choisit pas le vide contre le vide.
Oui.
Non.
Tout à fait.
D'où les drames. Et pour ça qu'il y a beaucoup de baptêmes actuellement. Ils se rendent compte qu'on ne leur a rien donné.
Oui.
Ils ont envie de connaître. Et tous les moyens sont bons pour nous aller vers eux.
Oui.
Mais là, d'une part, on va vers eux par des spectacles, par des concerts, par des belles œuvres. Et en plus... le spectacle, il vient vers nous.
Par la
donc
liturgie,
il y a un échange.
Et par la liturgie également.
Bien sûr.
Ah, ça, c'est très
musique,
important, la liturgie.
Mais ça, extrêmement
Il est bien
important.
Évident que à donner des choses qui ne sont pas... enfin, je vois tous ces spectacles, les plus ou moins sataniques, enfin, etc. Alors, qu'au départ, les jeunes en rupture, disons... ils participent, soient intéressés, soient curieux de ce genre de choses. Et puis je vous dis, c'est une rupture par rapport aux parents, par rapport aux éducateurs, par rapport à tout ce qu'on tente de leur donner. Bon, très bien, c'est la phase adolescente, disons, de la révolte adolescente. Mais au bout d'un moment, il est bien évident que avec la maturité de l'adulte, on se rend compte des choses beaucoup plus essentielles. Et là, pour le coup, on peut plus aller vers ce genre de choses. Parce qu'on sent bien que c'est totalement artificiel, c'est totalement faux, c'est laid. Bon, et au bout d'un moment, il y a une appétit, comme je le disais tout à l'heure, du beau, du vrai, c'est ce que l'office faisait. Voilà. Et ah oui, tiens, ça me fait penser. C'est Yves Gire qui faisait.
Oui, une avocée. Merci Benoît. Merci de cette bonne information.
Voilà. C'est Yves Gire dont le frère a fait vraiment. Des spectacles, je l'avais invité ici naturellement pour le dire, il avait écrit énormément de spectacles qui s'apparentent au mystère moyenâgeux d'ailleurs, hein, qui avait toujours une véritable, il y avait toujours une tension spirituelle dans ces spectacles qui étaient tout à fait remarquables et qui étaient joués par des scouts complètement amateurs, mais de grande qualité.
Mais regardez, je ne sais pas si vous avez parlé avec des jeunes un peu déjantés, dirons-nous, qui ont vu l'ouverture des Jeux Olympiques, qui sur le moment ont trouvé ça bien, beau, c'était théâtral, bien organisé, oui, mais après ils font un retour, et oui. Quand vous parlez avec eux, ils disent, mais en fait c'est du délire, qu'est-ce que c'était, où on nous amenait,
oui, oui,
et en fin de compte, certains d'entre eux que j'ai rencontrés, qui sont en catéchèse maintenant,
voilà, c'est
parce qu'ils ont été choqués, et c'est l'effet boomerang.
Oui, oui.
Alors du coup, ça réussit, voilà, à quelque chose.
C'est formidable.
En fin de compte, oui.
Cette ouverture.
Ben, le diable porte pierre.
Bien sûr,
j'allais vous dire.
Alors, donc les catéchumènes, c'est très bien. Les familles, venir en famille, c'est une sortie. C'est des sorties de paroisse. Ils font régulièrement des sorties de paroisse. Et souvent des sorties de paroisse avant Pâques.
Bien sûr.
Donc une sortie de paroisse, c'est facile, c'est le métro, c'est le bus.
Oui, oui.
C'est
alors,
tout prêt.
Donnons d'ailleurs quelques éléments, oui, très concrets, très pratiques. Donc, je rappelle la Passion de Ménilmontant qui est donnée à la paroisse, en la paroisse Saint-François d'Assise, salle Saint-Landry, 16 rue du Général Brunet dans le 19e arrondissement. Alors, de Paris, c'est très bien desservi par la ligne 7 bis, la ligne 11, les bus c'est 71, 60, 48. Enfin, je veux dire par là, il n'y a pas de l'excuse de se dire c'est le bout du monde et je n'y arriverai pas. Voilà, c'est donné, ce spectacle est donné les 21 et 22 mars, les 28 et 29 mars à 15h. Et le 20 et 27 mars à 20h30 en soirée. Donc, il y a autour de ce spectacle une exposition en hommage à Didier Brun. Il est prudent de réserver parce que la salle n'est pas très très grande.
Une centaine de places, vous nous disiez. Voilà. Donc
vous aurez tout renseignement et certainement. Alors d'abord, on peut l'avoir sur billet Réduc. lapassion.fr. Je pense qu'on peut sur ce site, on peut retenir ses places. Et puis tout renseignement au 07 74 80 03 68 07 74 80 03 68. Et avant naturellement, je donnerai tous ces renseignements à la radio. Hein, si vous avez besoin, vous pouvez téléphoner au secrétariat. Et avant.
Le tarif, l'entrée alors, est de 18 euros.
Voilà,
vous nous indiquez 18 tarif euros.
Plein. Tarif plein. Oui.
Voilà.
Et puis, il y a des tarifs réduits pour les enfants.
De moins de 12 ans à 13 euros.
Et vous pouvez consulter un site, lapassion.fr, tout simplement, pour pouvoir voir quelques éléments de ce spectacle. Avant d'ouvrir encore davantage au spectacle, à l'évangélisation par le spectacle, je voudrais vous faire entendre des œuvres d'un ensemble, Lux Eterna, des œuvres de Nicolas Bernier, qui a, l'année dernière, je crois, il y a 2 ans, a produit un disque. Alors, c'est l'avantage de cette association, la caractéristique de cet ensemble Lux Eterna, c'est de reprendre les grandes œuvres du répertoire, tout simplement, par des musiciens professionnels, mais de les introduire dans la liturgie, comme on fait à Saint-Eugène, d'ailleurs, avec Henri de Villiers, c'est-à-dire de recontextualiser, le terme n'est pas beau, recontextualiser ces œuvres que l'on donne habituellement au concert, en quelque sorte, mais qui sont en fait des œuvres sacrées qui étaient essentiellement données pendant les cérémonies, pendant les liturgies. Et c'est tout à fait intéressant. Et là, c'est une intégrale des Leçons de ténèbres de Nicolas Bernier, le dernier disque qui a été publié par l'abbaye de Champeaux, ce sont les leçons de ténèbres du deuxième jour et les leçons de ténèbres du troisième jour. Et c'est un groupe tout à fait remarquable. Je le dis parce que j'ai eu l'occasion de jouer avec eux, tout simplement. Vous pensez bien, chers auditeurs.
Mais au contraire, donc, tu le connais bien. Voilà. Vous le connaissez
mais,
bien.
Mais je trouve que l'initiative est tout à fait intéressante et remarquable. Et c'est à souligner. Alors, je vous propose d'entendre un court extrait de ce disque paru sous le label de l'abbaye de Champeaux. Et vous entendrez essentiellement la voix de Marthe Davos, la superbe voix, et l'orgue de Gaëtan Jarry dans cette pièce.
Oh.
Nous écoutions un extrait très court des Leçons de ténèbres du deuxième jour de Nicolas Bernier, dont je rappelle les dates, 1664-1734. Ce n'est pas le musicien le plus connu, quoique. Et c'est l'ensemble Lux Aeterna qui l'interprète sur ce disque sous le label Champeau. Nous entendions la voix de Marthe Davos avec l'orgue de Gaëtan Jarry, la viole de gambe de Robin Faro, les violoncelles et voix sur le plein chant tout à fait au début de Hélène Richaud et la voix de Laurence Poudeyroux également. Voilà, c'est un très très beau disque, très méditatif naturellement pour la période que nous vivons. Nous arrivons presque dans la Semaine Sainte. Alors, Chantal Pluskolek, merci d'abord de nous avoir donné tout votre enthousiasme sur ce spectacle. Voilà, l'enthousiasme est le véritable mot. Je reviens un tout petit peu sur le texte, l'accompagnement musical, etc. Parce que, évidemment, produire aujourd'hui un tel spectacle, ça sous-entend un engagement esthétique, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a des choix à faire. Alors, vous disiez, sans dévoiler naturellement la mise en scène, parce que c'est dommage, il faut la découvrir, les acteurs arrivent en costume de ville.
Alors, quatre au début. Les quatre témoins.
D'accord.
Ils sont quatre témoins qui disent qu'ils ont connu le Christ.
C'est ça.
Donc, puis après, la scène arrive, le spectacle arrive.
D'accord.
Et à la fin, c'est tout un questionnement spirituel, psychologique, sur une voix off aussi, où les gens sont présents également. Et ils disent, et vous, qui dites-vous que je suis?
Oui.
Qui étons-nous dans la pièce? En fait, quand les gens jouent, à chaque fois, ils se disent, qui suis-je là-dedans?
C'est ça.
Et les gens dans la salle,
personnalisation
les spectateurs,
de...
ils se le disent aussi à chaque fois. Et moi, qui suis-je? Je suis Judas, je suis Saint-Pierre, je suis Saint-André, je suis Saint-Jean, je suis Judas, qui suis-je? Je suis aussi Pilate, qui est très séducteur. Et pire encore, Hérode. Hérode le pervers, qui est bien joué là. Parce qu'on ne voit pas tous ces parties. Quand on lit l'évangile, il faut le décrypter, le déchiffrer pour voir qu'il y a ces trois procès.
Oui, oui.
On ne fait pas attention, très souvent. On
tout
suit la passion sans voir qu'il y a trois personnes. Et c'est toute la société.
Absolument. Et quand vous parlez de trois procès, ça me rappelle un livre extraordinaire de Yves Maudre, qui réinvente en quelque sorte les trois procès, le Christ, Jeanne d'Arc et Louis XVI.
Ah oui.
Qui intègre les arguments à la fois juridiques, spirituels, enfin, etc. sur les trois procès. C'est un livre absolument extraordinaire. J'espère qu'il est encore disponible. C'était, je crois que ça s'appelle Les Trois Procès, d'ailleurs, me semble-t-il, de Yves Maudre.
M-E-A-U-D-R-E.
Voilà, Yves Maudre, je crois que c'est Les Trois Procès, mais voilà, le souvenir m'échappe.
Et Les Trois Procès de Jésus d'Olivier Kraft. Kraft,
comme le papier, exactement. Merci infiniment de ce témoignage d'une spectatrice et peut-être plus encore de la passion de Ménilmontant. Je rappelle, 21-22 mars, 28-29 mars à 15h, 20 et 27 mars à 20h30, dans la paroisse Saint-François d'Assise, dans la salle Saint-Landry, c'est la crypte en fait, hein, c'est ça, 16 rue du Général Brunet, dans le 19e arrondissement de Paris. Et renseignements au 07 74 80 03 68. Chers auditeurs, c'est le spectacle de cette semaine, avant la Semaine Sainte et avant naturellement la lumière de la résurrection de Pâques. Voilà, un spectacle qui dure depuis 94 ans. C'est sans doute une garantie à la fois de fidélité et de qualité pour tenir aussi longtemps. Merci, Chantal Pluskolek.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Et puis, à bientôt pour d'autres circonstances, j'espère. Voilà.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Bonjour Mélisande.
Bonjour. Bonjour Mélisande.
Alors... Bonjour les garçons. Bonjour madame.
Comme je le disais en début, tout à fait en début d'émission, nous allons rester dans un caractère, j'allais dire, un peu sacré et spirituel, puisque aujourd'hui, vous allez nous donner la vie de Franz Liszt.
L'enfance
de Franz Liszt, qui a reçu donc les ordres mineurs, puisque la vocation de Franz Liszt a toujours été une question d'ailleurs pour lui, un questionnement
tout jeune, dès l'âge de 3 ans en fait.
Absolument. Alors voici donc, dans le cadre de Raconte-moi la musique, Franz Liszt.
Dont je vous rappelle les dates 1811-1886. 22 octobre 1811. Cette nuit-là, une comète passait dans le ciel. Était-ce quelque présage annonçant quelque chose d'extraordinaire ? Franz Liszt venait au monde. Le nourrisson est si chétif, si faible, qu'on le croit déjà mourant. Quelques heures plus tard, on le baptise dans l'urgence, persuadé qu'il ne survivra pas. Les jours passent, le bébé miraculeusement est toujours vivant. C'est alors que son père, Adam Liszt, remarque ses mains. Ses si grandes mains. Tu seras pianiste, mon fils. Monsieur Liszt a une passion pour la musique et n'ayant pu lui-même devenir musicien, il compte déjà sur son fils pour réaliser son rêve. Après avoir été instituteur, Adam Liszt devient intendant d'un des domaines du prince Esterházy à Doborian. Doborian, tout petit village de Hongrie où jamais rien ne se passe. Une rue unique encombrée d'oies jacassantes et de brebis bêlantes. Et à l'infini, la plaine. Cette plaine constamment fouettée par de terrifiants orages accourus de l'Est, d'où parfois montent les merveilleux et brillants mirages des canicules. Adam Liszt supporte très mal la solitude à Doborian. Aussi, il prend femme et s'achète un piano. Il épousera la jeune et séduisante Anna Lager qui lui donnera un fils, le légendaire Franz Liszt. Enfant unique et miraculé, le petit Franz grandit choyé et adoré par ses parents. À 3 ans, il a déjà pris possession du piano de son père. Rien ni personne ne peut l'éloigner de l'instrument. Monsieur Liszt, au comble du bonheur, lui donne ses premières leçons. L'enfant le stupéfie à juste titre. Il sait tout avant même d'avoir appris quoi que ce soit. Toute la musique le met en éveil, tant la musique maison que la musique religieuse qu'il entend à l'église de son village. C'est alors que le vieux recteur Röhrer, qui lui enseigne le catéchisme, remarque son mysticisme presque maladif. Le petit garçon n'a que 3 ans. Un jour, Putzi, c'est ainsi que le surnomme tendrement sa mère, rencontre une bohémienne et lui tend sa main. Penché sur cette main d'enfant, la vieille tzigane n'hésite pas. « Toi, petit, tu quitteras Doborian, mais ce sera pour y revenir en un carrosse vitré et doré. » Franz Liszt, au fait de sa gloire, retournera dans son village et repassera le seuil de son humble maison. « Mais pour l'heure, que veux-tu faire quand tu seras grand ?» lui demande-t-on un jour. « Je ferai ce qu'a fait celui-là, » répond l'enfant en désignant d'un doigt orgueilleux le portrait de Beethoven. 26 novembre 1820, nous sommes à Presbourg, là où les rois de Hongrie se font couronner. Le prince Nicolas, ayant eu vent du petit prodige par son cousin Michel Esterhazy, invite Pouzzi à donner une audition en son palais. Il est subjugué et décide d'aider l'enfant, lui octroyant une bourse d'études afin de partir à Vienne, travailler avec deux maîtres ô combien prestigieux, Karl Czerny pour le piano et Antonio Salieri pour l'harmonie. L'un a été l'élève, l'autre le maître de Beethoven. Beethoven, muré dans sa surdité, bougon, invivable, ne voulant voir personne, ni les hommes, ni les femmes, encore moins les enfants. Quand on lui parle du jeune pianiste prodige de 10 ans, il fuit littéralement, refusant d'assister au concert prévu le 13 avril. Oh, le drôle a 10 ans, n'est-ce pas? Un petit singe savant, il en est d'autres. Pouzzi, apprenant le refus de son idole, est désespéré. Si seulement il pouvait obtenir un regard, simplement un signe du maître. Le concert commence à 12h30 en la Redoutensaal. Au programme, grand concerto de Hummel, grande variation de Moscheles, puis grandissime fantaisie libre sur un thème sollicité. Stupeur. Beethoven, hirsute, apparaît dans ma salle. À la fin du concert, il monte sur l'estrade et embrasse l'enfant à l'étouffer en lui criant aussi fort qu'un sourd peut crier « Va, petit, tu es un élu. Tu rendras les hommes heureux et tu verras, il n'y a rien de meilleur au monde. » Les études à Vienne ne dureront qu'un an et demi, Czerny et Salieri, malgré toute leur science, étant complètement dépassé par leur génial élève.
Thank you.
1823, Monsieur Liszt, engloutissant ses dernières économies, décide d'emmener son fils à Paris afin qu'il termine ses études au conservatoire. Mais là, déception. Il sera refoulé par Cherubini, alors directeur. Motif du refus, Franz n'est pas français. Inutile de préciser que Cherubini, lui, est italien. Puzzi travaillera donc en privé avec Antonin Reicha, qui est bien le maître le plus sérieux et le plus sévère que la France ait connu alors. Il impose à son élève en exercice quotidien 6 préludes et fugues de Bach avec transposition dans tous les tons. 1824. Les portes des grands salons parisiens s'ouvrent au jeune prodige. Puzzi va de triomphe en triomphe. La duchesse de Berry, le duc d'Orléans, futur Louis-Philippe, tous fondent devant l'évidence du génie. Il Cherubino d'Amore, le nouveau Mozart, l'appelle-t-on. Franz Liszt, l'enfant du miracle. On entend son nom partout, tant dans les rues que dans les salons qu'à la cour. Puzzi a 13 ans. C'est alors que l'on se met en tête de lui faire écrire un opéra. Mozart n'a-t-il pas au même âge et même encore plus jeune composé la Finta Semplice? C'est un four. Don Sanche ou le Château d'Amour ne connaîtra que 3 représentations. Le petit bonhomme retourne à son cher piano et part en tournée en Suisse, puis en Angleterre, où il lance le piano nouveau modèle à 7 octaves de Sébastien Érard. Le roi George IV d'Angleterre admirera tout autant le piano à 7 octaves de M. Érard que le jeune rival de Cramer et Moscheles. Retour à Paris. Première grande crise mystique. Puzzi se plonge dans la lecture des évangiles. Il connaît alors des moments d'extase spirituelle qui, plusieurs fois, le conduiront jusqu'à l'évanouissement. L'adolescent se confie à un père. « Je veux être prêtre. »« Prêtre ?» réplique le père. « Mais tu n'es pas destiné à être prêtre de Dieu, mais tu es destiné à être prêtre de l'art. L'art, le sais-tu, est une religion comme la religion elle-même. Veille, mon fils, et sois fort. » Puis soudain, il ajoute cette phrase prémonitoire. « Garde-toi des femmes, mon enfant. Elles troubleront ta vie. »
Thank you.
1827. Après toutes ces années de labeur acharné, Pouzzi, sans doute pour la première fois de sa vie, prend quelques vacances à Boulogne-sur-Mer. C'est alors que son père tombe malade et meurt le 27 août. Le jeune homme et sa mère, brisés par le chagrin, regagnent Paris. Il faut à présent assurer le quotidien. Confère et composition ne rapportant quasiment rien, il commence à donner des leçons de piano aux jeunes filles de la haute société. À la fin de cette année, il devient le professeur de Caroline de Saint-Cricq, fille du ministre du Commerce, et s'éprend de la jeune fille. C'est à peine si la belle Caroline aura le temps de l'aimer et lui de l'adorer. Il fait peut-être question du passage du pouce et du jeu de la pédale à la première leçon, voire à la deuxième. Cependant, la troisième, Madame la Comtesse de Saint-Cricq surprend le baiser échangé entre sa fille et son professeur. Monsieur le ministre prie Franz de suspendre ses leçons et marie sa fille au trait comme il faut, comte d'Artigot. Caroline voulut s'ensevelir à tout jamais au fond d'un cloître et Liszt faillit en mourir. Ils survivront. Tout Paris est au courant et suit la convalescence de notre jeune héros avec attendrissement. Et l'on pourra lire dans l'étoile, journal à la page. Tu te tais en vain, jeune homme amoureux, tes beaux yeux cernés, ta démarche lente, ta joue empourprée, ta voix absente. Va, tout nous apprend que tu fus heureux. Que faudra-t-il à Pouzzi pour le faire réagir? Rien de moins que les trois glorieuses. Il s'emballe, se passionne, bondit sur son piano, improvisant une symphonie révolutionnaire avec allegro frenetico. C'est la délivrance. L'année de toutes les rencontres, de toutes les amitiés et de tant d'inspiration. Chopin, Paganini, Berlioz, mais aussi Delacroix, Alexandre Dumas, Victor Hugo. Franz a 19 ans. Tel un astre, il illuminera toute la vie musicale du 19e siècle, révolutionnant la technique pianistique, inventant le récital. Et tel Don Giovanni brisera le cœur de 1000 femmes. Cependant, 35 ans plus tard, c'est Dieu qu'il choisira, recevant les ordres mineurs et devenant l'abbé Liszt. Et sur sa tombe aujourd'hui, on peut lire « Je sais que mon Rédempteur vit ».
Merci Mélisande.
Merci voilà. Mélisande. Beaucoup de
le génie, le
téléphones
génie de
vont
liste.
Encore arriver pour dire que Mélisande nous enchante.
Voilà.
Merci.
Eh bien, écoutez, chers auditeurs, merci. Merci à Madame Pusquelec
merci,
qui nous
madame.
A accompagnés tout au long de cette émission. Et puis,
à bientôt,
merci.
Didier.
Ben, dans 4 semaines, par exemple.
Oui.
Voilà.
On téléphonera un petit peu avant.
Je vous souhaite déjà, d'ores et déjà, un Saint Carême et une belle fête de Pâques.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Musique et de la Culture dirigé par Didier Rochard, assisté d'Éric, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 17 mars 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.